Contact sur Autoradio.
Yes, yes, yes.
Eureka, du déclic à l'invention, présenté par Alexis.
De tous les salons, les foires et les grandes expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalées, et le produit de l'année. Grâce à mon inventivité.
Eureka, du déclic à l'invention, présenté par Alexis.
Salut les radionautes et bienvenue pour une nouvelle émission d'Eureka, du déclic à l'invention. Et parcourons aujourd'hui la fabuleuse aventure d'André Ampelas qui l'a mené à l'invention de la carte à puce sans contact, le Pass Navigo, qui a remplacé le ticket magnétique. Une innovation marquante utilisée dans de nombreux domaines, comme vous allez le découvrir. André Ampelas revient pour nous sur son épopée, son ascension, jusqu'à son éviction de la RATP, malgré une fidélité exemplaire à son employeur. Alors, chers radionautes franciliens, soyez attentifs à cette première partie d'interview, car je vous propose de jouer et de gagner à la fin de l'émission en répondant à deux questions. Si vous avez bien écouté, ce sera facile. Si vous avez les bonnes réponses, les plus rapides repartiront avec le prix de leur abonnement du pass Navigo mensuel. Allons à la rencontre d'André Ampelas, aux physiques de Alain Juppé, Louis de Funès et Nicolas Sarkozy. Photo à l'appui sur Autoradio. André Ampelas n'a pas sa langue dans sa poche et c'est à nos plus grands plaisirs. Voici une rencontre exceptionnelle et inédite à la radio.
Bonjour à tous les auditeurs d'Autoradio. Autoradio, c'est beau.
Notre invité du jour n'a pas sa page Wikipédia. Peu d'infos circulent sur lui sur Internet et pourtant il est connu et reconnu par ses pairs. C'est donc en exclusivité qu'on va retracer avec lui le fabuleux destin d'André Ampelas. Un homme passionné, cultivé et frustré aussi, vous découvrirez pourquoi. Un véritable ingénieur technicien aux inventions révolutionnaires. Bonjour André Ampelas.
Bonjour.
Tous les usagers franciliens des transports en commun connaissent vos inventions. Du pass Navigo aux bornes des arrêts de bus indiquant le temps d'attente du prochain bus. Vous avez conduit ces innovations et bien d'autres qu'on va découvrir à la RATP où vous avez passé toute votre carrière quasiment. Vous avez également participé à l'émergence des métros à l'étranger comme à Mexico et Athènes. Et aujourd'hui, à 67 ans, vous êtes depuis 2004 consultant indépendant dans les transports. Et c'est pour quand la retraite ?
Ou la retraite, officiellement, je l'ai prise de façon forcée, donc en 2004. La retraite, je crois que si vous voulez, pour ne pas mourir idiot, il faut toujours avoir un peu d'activité. Et comme mon métier m'avait beaucoup pris, j'ai du mal à faire autre chose.
Alors revenons à vos débuts. Vers l'âge de 10-15 ans, quelles étaient vos envies professionnelles, vos rêves ?
Écoutez, mes rêves, j'étais d'abord dans une petite ville du fin fond de la Tunisie, donc j'avais la chance d'avoir un grand-père qui était un self-made man, un autodidacte, mais qui avait fait beaucoup de choses, qui a construit beaucoup d'usines à huile en Tunisie, et qui a commencé comme cantonnier, donc c'était un peu ma référence. Et il était plein d'admiration pour ces gens qui avaient fait des grandes études, et donc je crois que c'est la raison pour laquelle je voulais à tout prix faire Polytechnique.
Mais vous aviez pas une idée de métier en tout cas ?
Aucune.
Ouais.
Aucune, si ce n'est que j'étais fasciné par ce que faisaient les gens. J'adorais voir faire. Et j'adorais faire. Je bricolais beaucoup étant jeune.
Alors, vous êtes polytechnicien. Vous arrivez 9e sur 301 élèves admis de la promo 1966. Même promo qu'Alain Lipietz, un politicien membre d'Europe Écologie. Vous vous rappelez de lui?
Absolument. Alain Lipietz, qui dit Lipietz.
C'est son surnom?
Oui, on l'appelait comme ça. Il y avait Alain Lipietz, dit Lipietz, ou Lipiec, dit Lipietz.
D'accord.
Très politisé. C'était pas bon cas.
Et alors, en préparant cette interview, vous m'avez aussi parlé de deux autres camarades, je crois, de votre promo, qui ont eu des carrières parallèles à la vôtre, un à la SNCF et l'autre à
France
Télécom.
Ah oui, dans des domaines, disons qu'il y a des choses assez amusantes, puisque, si vous voulez, je me suis retrouvé, j'ai croisé les pas d'un sociologue qui s'appelle Norbert Alter, qui m'avait expliqué dans l'innovation, qui me disait qu'il y avait trois temps dans les boîtes parapubliques. Temps 1, les innovateurs qui sont des gens différents des autres, agacent, on les observe. Puis ils intriguent, ils fascinent un petit peu, on s'intéresse à eux. Temps 2, on les reconnaît, donc on leur fait gravir des échelons, on les flatte, on les reconnaît, quoi, en un mot. Et puis temps 3, ils indisposent complètement, on les fout par terre, on les broie. Voilà. Et donc, au fond, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est arrivé également à un camarade de promo qui m'est très proche, puisqu'on était dans la même chambre, hein, c'est Jean-Pierre Coudreuse, qui est pas très connu, pourtant il a fait quelque chose que je trouve assez exceptionnel, c'est l'ATM, donc la Synchronous Transfer Mode, qui est la technique qui a permis, je crois, l'explosion des transmissions sur les fibres optiques, donc c'est absolument remarquable. Et il a été, il faut le dire, congédié de France Télécom. Bon.
Merci France Télécom d'avoir pu permettre à nos hommes d'ajouter au bruit de la ville et des klaxons la douce sonnerie du téléphone.
J'avais un autre camarade dont j'étais moins proche, mais de la même promo, Lacote, qui est considéré comme le père des TGV en France, qui a été aussi invité à quitter la SNCF. Il est aujourd'hui, je crois, chez Alstom, donc ravi de son point de chute. Enfin, en ce qui me concerne, un peu moyen passé, j'ai eu quand même deux cancers, j'ai très mal vécu mon éviction d'une boîte à laquelle j'avais tout donné.
On va y revenir. Alors, vous enchaînez ensuite par un diplôme en 1971 d'une grande école d'ingénieurs des télécommunications, aujourd'hui appelée Télécom Paris Tech. Et quel sera votre premier employeur après vos études?
À mon premier employeur, même pendant mes études, ça a été la RATP. Dès le départ, j'ai rencontré un homme que je trouve exceptionnel, qui était un peu idiot à l'époque, hein, puisque, enfin idiot, j'étais un tout jeune ingénieur et j'avais croisé le DG de l'époque, Pierre Veil, qui a été un des très grands patrons de la RATP, l'homme du renouveau technique de la RATP, sans aucun doute. Je devais rentrer à Air France. J'avais déjà donné mon accord pour rentrer au service informatique d'Air France. Et il m'a convaincu de venir à la RATP. Donc je suis venu. Pour une raison bien simple, c'est que je suis d'origine grecque. Et il m'a dit, nous allons faire le métro d'Athènes, je vous enverrai à Athènes. Ça ne s'est pas fait de suite, ça s'est fait bien après. Mais j'ai fini par aller à Athènes, et voilà. Et j'ai rencontré un deuxième DG, alors bien après, j'y reviendrai, qui était aussi sur le deuxième pilier, qui était Christian Blanc, qui est aussi un homme assez exceptionnel.
Et c'était quoi votre premier poste ingénieur?
Mon premier poste, alors là, était assez stupide. C'était au service technique, au service d'études, et on m'a envoyé compter sur la ligne de Sceaux, donc où nous sommes aujourd'hui, les boîtes qui servaient à localiser les trains. Voilà, donc je devais me balader sur la voie et compter les boîtes, ça a été mon premier travail.
C'était un statut quoi, ingénieur?
C'était un statut d'ingénieur, mais n'importe qui aurait pu le faire. Donc il y avait un décalage que les jeunes retrouvent souvent entre ce qu'on a pu étudier et ce qu'on leur demande de faire sur le terrain. Ceci étant, ça amène à aller au plancher des vaches, et je crois que c'est nécessaire dans bien des cas.
Alors vous êtes fidèle à la RATP durant quasiment toute votre carrière, et pourtant vous quittez l'entreprise publique brutalement en 2004. Pourquoi avez-vous été licencié en 2004?
Licencié, c'est pas le mot, puisqu'on peut pas être licencié de la RATP si on a, enfin, ça va avoir commis une faute, qui n'était pas le cas. J'ai été incité à partir, effectivement, très fortement. Je crois que j'avais commis deux délits assez gros. Un, c'était un délit de notoriété. Donc, j'avais eu le prix Chéreau Lavé de l'innovation. Je venais d'être nommé, donc, deux mois au préalable, meilleur directeur informatique de France. Ce qui est insupportable pour une présidente, en l'occurrence, qui a pour compétence, je la cherche toujours, qui a un carnet d'adresse sur lequel il y avait le numéro de téléphone du président de la République. Donc.
Allô, Jacques ?
Allô ?
Ouais, c'est mon copain.
Allô, c'est qui, là ?
C'est mon copain, là.
Ah, mon copain, la famille. Hé, hey, Claude, laisse la musique,
ouais,
c'est mon copain.
Mal,
comment ça va, Frelon ?
Ouais, ça va.
Qu'est-ce qui se passe ?
Ça va pas. J'ai une galère, là.
Mais comment ça, t'as une galère ?
Mais j'ai une galère, là. J'ai des cousins et des cousines à moi qui se sont fait expulser, là.
Ils se sont fait expulser ?
Mais ouais.
Par l'autre, encore, là ?
Mais ouais, c'est pas normal, là.
Oh, il est énervé, je sais pas. Il doit avoir encore des galères avec sa meuf.
Et donc, ces gens-là se sentent instables et donc ne supportent pas que quelqu'un puisse émerger. Il faut rester gris, ne pas faire de vagues. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que je voulais automatiser, en gros, enfin, pour ce que j'avais conçu. J'avais participé donc à Météor, la ligne entièrement automatique. Je pensais que c'est une saine réponse au problème des grèves à répétition en automatisant le tiers du réseau. Puis aussi, c'est une façon d'être dans la modernité, hein, puisque le slogan que j'avais pris, c'est qu'on ne refait pas à notre époque des ascenseurs avec des grooms, puisque Et il était question de le renouveler à l'identique, ce qu'avaient très bien fait nos anciens, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais tous les métros de Paris ont un dispositif qui contrôle le conducteur. Et donc, 30 ans après, nos anciens qui avaient très bien travaillé, refaire la même chose, c'était un peu frustrant pour des sommes astronomiques qui permettaient de faire, justement, l'ascenseur horizontal entièrement automatique et qui avait fait ses preuves, Météor, qui aujourd'hui était un succès reconnu, hein, et qui a permis de faire la ligne 1. Voilà, en gros, si vous voulez,
Météor,
mon interprétation.
C'est la ligne 14,
maintenant,
hein.
Il faudrait demander à la présidente de l'époque les raisons de mon éviction. Je ne les connais toujours pas officiellement et je suis toujours en procès avec les RATP, 9 ans après.
Alors c'est Anne-Marie Hydrac hein, qui était à ce moment-là en 2004, de 2002 à 2006 la présidente hein, de la RATP et le gouvernement à l'époque... C'était plus à gauche ou à droite?
Non, le gouvernement était à droite et Gilles de Robien, qui était le ministre des Transports, j'ai été son conseiller juste après. Donc, de façon, si vous voulez, extra-officielle, parce que je ne voulais pas être embauché au ministère avant d'avoir mes deux cancers.
Ouais, faudrait les rapatrier, s'il te plaît.
Mokobé, je peux pas faire ça à chaque fois, mec.
Ouais, mais je sais, mais attends, tu sais ce que tu nous dois.
Mais c'est pas la première
tu
fois.
Qu'est-ce que tu nous dois, hein? Tu veux pas que je raconte ce que.
Non, dossier, voilà. raconte pas, okay, on nous écoute.
Bah voilà.
Et ils sont combien?
Ils sont 40 entre le Mali et le Sénégal.
40.
On va faire un aller au Mali, au Sénégal et direction Paris.
Bon, ben, je vais voir ce que... Bon, écoute, je vais t'envoyer deux équipes avec des jets privés, ok?
Ok, là, ça me va.
Mais c'est à charge de revanche, hein, Mokobé?
Ouais, t'inquiète.
Et tu te rappelles, hein?
Ouais.
Faut que je pose sur ton prochain projet,
ouais,
là.
Ouais, t'inquiète pas.
Mais j'ai un truc pour toi, là, Mokobé.
Ouais.
Tu dis Jack Chirac? Ok, MC Jack Chirac, c'est trop un massacre.
Non.
Vas-y, viens prendre une claque.
Vas-y, gros, je te rappelle.
Oh, Mike, c'est moi le président.
Vas-y,
franchement,
mec,
tu dis Jack Chirac, tu peux pas test, gros. Merde, il a raccroché. Et Claude, remets la musique.
Donc on a vu quand même que oui, l'automatisation, c'est peut-être pour une question de grève en fait que ça ne se fait pas aussi rapidement.
Non, je ne crois pas que ce soit lié à une grève. Donc, disons qu'il y a des problèmes de grève sur Paris que vous connaissez certainement. Je pense que l'automatisation n'est pas seulement une réponse à la grève, c'est aussi une réponse à une certaine flexibilité. Lorsque vous avez un match de football qui traîne un peu, ben il y a des contraintes sur un conducteur qui doit rentrer, qui doit terminer son travail, qui ne peut pas avoir une amplitude de travail excessive. Avec un automatisme, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc l'automatisme intégral, c'est avant tout une grande souplesse. Qui est synonyme également de liberté. S'il est maintenir un travail artificiel qui est répétitif, qui peut être remplacé par une machine aussi bien, ça n'a pas de sens.
Concorde. Attention à la marche.
Alors, il ne faut pas le faire de façon brutale, il ne faut pas supprimer des emplois de façon stupide. Hein, il faut le faire en évolution, il faut trouver un reclassement pour ces personnes. Tout cela est parfaitement faisable parce que tout cela s'inscrit sur une durée très longue. On ne transforme pas une ligne en un an, ça se fait sur 10 ans, 10, 15 ans. Donc s'il n'est pas une ligne, l'ensemble du réseau, enfin la partie du réseau qui est proposée en l'occurrence.
D'accord.
Donc ça c'est la version que moi j'ai, mais enfin si vous voulez, je n'ai jamais eu de réponse claire à ma mise au placard.
Et du coup, vous nous avez dit que vous êtes encore en procès aujourd'hui. Quel est votre état d'âme sur votre départ et...
Ben, je trouve que ça a été une profonde injustice, qui n'a pu être le fait que de quelqu'un qui ignorait les apports que j'avais pu avoir et que c'est tout. Hein. Un ingénieur quelconque, et je dirais toute la profession, avait été offusqué à l'époque de ce qui s'est passé. Donc seul quelqu'un ignorant de tout cela pouvait agir de la sorte. Mais je n'ai pas de ressenti particulier vis-à-vis de cette personne. Si on a l'intelligence de s'entourer de gens compétents, si on veut le meilleur pour son entreprise, on peut s'en sortir. C'était le cas de Christian Blanc. Hein, il n'était pas compétent en transport, il s'en est très très bien sorti.
D'accord.
Il n'avait aucune crainte de chercher les meilleurs autour de lui.
Ouais.
Mais si vous êtes là un peu par piston, par hasard, eh bien vous avez très peur de tout quiconque émerge. Donc vous cherchez à arracher toutes les têtes qui dépassent. Mmh. C'est malheureusement ce qui se passe un peu trop fréquemment dans l'administration française.
Le trafic est...
Alors, que pensez-vous de la gestion du réseau des transports en Île-de-France, aujourd'hui partagé entre le STIF, le financeur, et la RATP, la SNCF, les exploitants?
Moi, ce que je constate dans le domaine qui nous a amené aujourd'hui, hein, vous voulez parler de Navigo, je constate que Navigo, les démarrages de Navigo, c'est 1988. On est plus de 20 ans après.
1988, 1988.
Absolument, je peux vous en parler. Les premiers essais ont été faits en 88.
D'accord.
J'ai lancé ça en 88.
Pas au grand public, évidemment.
Non, pas au grand public. Au début des expérimentations, pratiquement. Nous devions avoir terminé la généralisation en 96. Donc, vous voyez, nous sommes actuellement en 2013. Je constate, c'est la seule chose que je dirais là-dessus, c'est que les carnets de tickets sont toujours en support magnétique, hein, que par ailleurs, comme la grande innovation que j'ai entendue hier dans les couloirs du métro, c'est qu'on proposait de recharger en utilisant un petit lecteur sur clé USB. Enfin, cette dernière proposition, je l'ai faite il y a 8 ans à la RATP. Donc, si vous voyez, ça vous montre la vitesse d'évolution à laquelle on est aujourd'hui confronté. Et je donnerai un seul contre-exemple. En 93, j'étais le conseiller spécial du ministre des Transports de Hong Kong, hein, et c'est moi qui lui ai poussé donc sur le sans contact. Hein. Hong Kong a été entièrement sans contact en 96, juste enfin 97 pratiquement, juste avant la jonction avec la Chine. Donc, vous voyez là-bas, il faut 4 ans en partant de rien. En France, on avait déjà pratiquement tout. Il y a bien des choses qu'on avait et on est toujours en train d'essayer de développer les choses. Alors, on pourra revenir dessus sur les vraies raisons.
Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Donc, le pass sans contact, hein, pour les auditeurs, à Paris, il arrive dans les années 2000.
La décision de généralisation est prise en 2001 avec un stop départ et on redémarre en 2002. En fait, depuis 1996, hein, il était déjà installé sur pratiquement toute la ligne A, hein, et sur certaines lignes de métro.
Stop that train.
Mon métro, c'est la fête à la mitraille, mon esprit qui déraille, les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails.
Pas d'abracadabra, thune à tous les coups, mais ça vaut mieux que planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou.
Ligne 2, ligne 12, ligne 6 avec les gros. Étoile, Kléber, Boissière, Trocadéro. C'est mieux que le body step pour perdre des kilos. Deal de son compte, les devises dans mon chapeau. Dollar, Copec, France, Suisse, Yen ou Euro. Comme Bogdan, Antoine, Manuel ou Ricardo. Mais pas d'ampli, pas de micro, pas de chariot. Pas dans les couloirs pour prendre des vents par les badauds. Entre les straps en temps pour que tu rates pas le spectacolo. Pendant que les stations défilent, je vise vos tampons. Je croise vos regards de temps en temps sous pas mes. Trop extraordinaire. C'est quel arrêt pour être chanteur populaire? Quelle direction pour un développement de carrière? Oui. Dans 15 wagons, j'aurais gratté mon salaire. J'ai une belle vue sur Babylone. Du haut des chiottes du palier de ma chambre de bonne.
Vous êtes bien sur Autoradio.
Dans les années 1990, vous êtes nommé directeur général adjoint à la RATP pour le département système d'information et de télécommunication. 97, vous êtes décoré de la Légion d'honneur. Dans les années 2000, après des années de recherche, le pass sans contact piéton, pass Navigo remplace le ticket de la carte orange lancé en 1975. Mais pour vous, quelle est votre consécration de votre carrière?
Je crois pas avoir de consécration de carrière. J'ai eu beaucoup de satisfaction dans différents domaines. Dans celui du tout ce qui a trait au système de péage, je crois que mon plus grand plaisir, qu'est-ce que ça a été? Ben, ça a été, je crois, quand la ville d'Amiens a décidé, c'était la première en France, de mettre enfin le pass sans contact. Ça va être dans les années 97, ça a été la première. À Paris, on était encore en train de patauger. Une autre satisfaction aussi que je cite, hein, c'est la première marque d'intérêt des autorités sur ce qui est devenu le Navigo, parce que les gens l'oublient. Ça a été en 95, il y a eu 22 maires allemands qui sont venus voir à Paris ce qui se passait. Donc les autorités se sont dit, Giraud, qui était le président de la région à l'époque, n'a pas daigné se déplacer. Son adjoint, qui était un dénommé Monsieur Brard, je crois, ou Brass, ou un nom comme ça. Bon, lui était tout paniqué de voir 22 maires allemands qui étaient là à Paris en train d'examiner qu'est-ce qui se passe, c'est fabuleux ce truc-là. Et puis à Paris, vous voyez, on n'arrivait pas encore à intéresser un seul politique.
Donc le pass Navigo est arrivé avant à Amiens, avant Paris.
La première ville a décidé d'installer effectivement la technique Calypso. Enfin, il s'est appelé, c'est son nom de baptême de Paris, mais la technique s'appelle Calypso. Ça a été Amiens, effectivement. Alors maintenant, historiquement, Nice a réussi à mettre en service avant Amiens. Ça a été la deuxième ville.
D'accord.
Mais Amiens, ça a été une histoire tout à fait amusante, puisque c'était Gilles de Robien, qui était le maire d'Amiens à l'époque, qui m'avait dit, je l'embêtais en disant, mais il y a une technique française qui est remarquable, n'allez pas prendre n'importe quoi. Il m'a dit, écoutez, moi, il vient de en avoir marre que je l'embête régulièrement. Il m'a dit, si vous décidez mon conseil municipal à dire oui, je suis pas contre. C'était, je crois, 14h. Et je dis, bon, mais très bien. Il m'a dit, mais il y a une réunion ce soir à 20h. J'ai dit, écoutez, j'arrive. On est sorti à 3h du matin ou 2h30 du matin. La décision était prise. Amiens choisissait Calypso. Mais là, je peux vous dire que j'ai eu des sueurs froides puisque je n'avais pas l'ombre d'un industriel encore derrière. Et ça a été, par exemple, les cartes n'étaient pas fabriquées. Les premières cartes à microprocesseur sans contact sont sorties en 1998. J'ai d'ailleurs l'exemplaire numéro 1, hein, toujours, que je garde, qui m'a été remis, bien entendu.
Vous venez d'acquérir une carte Imagination.
Bienvenue. Merci.
Grâce à la carte Imagination, évadez-vous sur simple demande.
Votre code à 4 chiffres.
Appuyez
votre carte imagination permettra de vous évader quand bon semblera.
Votre code à 4 chiffres.
Un simple code à l'abri des regards indiscrets.
Code erroné.
Pour annuler, veuillez insérer votre
composez votre code à l'abri des regards indiscrets.
Autoradio, reste accro.
Pouvez-vous me raconter l'instant où l'idée est venue de remplacer le ticket de transport magnétique par une carte à puce sans contact?
Possible. Ce qui est certain, c'est que j'étais responsable donc des péages de Paris. Les péages avaient quoi, une vingtaine d'années, ou c'était dans les années 90, donc ils allaient approcher des 30 ans. 20 ans, c'était la limite. On considérait qu'ils devaient fonctionner 15 ans, donc je savais qu'il fallait faire autre chose. Tant la RATP que la SNCF avaient travaillé sur ce qu'on appelait la haute coercitivité, une amélioration des techniques existantes. Nos anciens, que j'admirais beaucoup, avaient remarquablement travaillé, mais je pensais qu'il fallait autre chose. Quoi? Mystère et boule de gomme. Donc, certains avaient pensé qu'il fallait mettre une carte à puce, ils l'avaient même mise à Blois. Bon, c'était la démonstration du fait que ça pouvait pas coller, hein, puisque ça mettait un temps fou, et imaginer un transport en commun, c'était la révolution. Donc, on tournait un peu en rond. Bon. Là-dessus, si vous voulez, les péages autoroutiers fonctionnaient déjà. Donc, vous voyez que, alors, l'idée de se dire un télépéage piéton.
Télépéage, ouais.
Voilà. Ben, l'idée, s'il est, moi, je n'arrive pas à la situer. Je veux même pas dire qu'elle vient de moi. Je pense qu'elle a tourné dans l'air, hein, et que pratiquement, donc, j'arrive pas à trouver un moment où. Hein, désolé.
Ouais. Bon.
Et d'autres l'ont eu certainement aussi. En revanche, ce que je revendique, si vous voulez, c'est que, comme dans toute invention, je crois qu'il y a trois points essentiels. Et quand on est dans une entreprise parapublique, il y en a un quatrième. Je crois qu'il faut une idée, effectivement. Je crois qu'il faut la concrétiser, c'est un deuxième point essentiel. Et trois, il faut que ça corresponde à un besoin. Parce que si vous concrétisez un truc qui correspond à aucun besoin, ça tombe. Alors, quand vous êtes dans une administration, dans une para-administration comme ça, c'est de l'enfer parce qu'il faut, c'est une quatrième dimension, arriver à convaincre les décideurs d'aller de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je crois qui a été essentiel dans cette histoire de Navigo, ça a été la façon de le réaliser. Je vous donne un exemple. Le premier prototype qu'on ait présenté, c'était à Stockholm en 1989. Donc, un an après le démarrage, 88. Eh bien, le premier prototype était en infrarouge. D'accord? Donc, il y avait bien un télépéage piéton, mais on ne savait pas qui avait appuyé sur le bouton. Puisqu'en infrarouge, le voisin pouvait aussi avoir appuyé sur le bouton. Donc, on voyait bien qu'il y avait un problème.
Hey.
Donc, l'idée en elle-même, vous voyez que c'est pas suffisant du tout. Bon. Et c'est en travaillant, si vous voulez, hein, que nous nous sommes dit, je ne dis pas je, parce que c'était un groupe que je menais, que j'ai mené tout au long de ces 15 années avec toutes sortes de combats, hein, c'était de dire, eh bien, il faut savoir discriminer. D'où la nécessité d'inventer une transmission de proximité. Alors d'inventer ou toujours, et c'est le propre d'une invention intelligente de mon point de vue, c'est de ne pas innover quand on peut éviter. Hein, c'est de rassembler, de voir ce qui existe sur le marché, de prendre la petite brique qui va bien et d'ajouter un petit peu pour ne pas faire la révolution, pour être sûr d'aboutir. Et là, en l'occurrence, il y avait bien une transmission qui existait, qui était fournie par le laboratoire du SEPT, qui était commun à France Télécom et à La Poste. Donc on a rajouté des choses. Alors quoi? Ben, par exemple, il y avait bien une transmission de proximité. Bon, la mise au point ensuite, hein, tout à fait, c'est devenu la norme internationale ISO 14443. D'accord? Donc c'est devenu une norme internationale. Bon, et là-dessus, par exemple, eh bien, il y avait ce qu'on appelait la collision. Si vous mettez deux cartes dans le même champ, on ne sait pas laquelle a fonctionné. Donc il faut traiter ce problème-là. Un autre truc qui est tout simple, tout à fait idiot, c'est ce qu'on appelait la session. Alors la session, c'est quand vous passez dans un champ, la carte est passive, tout ça fonctionne par induction, donc l'antenne donne d'une part de l'énergie et transmet des informations, d'accord? Eh bien, si vous passez très vite, vous interrompez la transaction, c'est pas comme quand vous êtes devant un automate bancaire. Donc nous avons inventé la session, qui est un truc stupide, c'est ce qu'on fait en informatique tous les jours. On a un buffer, on met l'information là-dessus, et quand tout est bon, crac, on le met sur la bonne mémoire. Bon, ben ça a été breveté. C'est un brevet qui rapporte beaucoup d'argent à la RATP aujourd'hui, hein, puisque par exemple les passeports du monde entier, je dis bien les passeports du monde entier qui fonctionnent en proximité, payent des royalties à la RATP, ce que même les gens de la RATP ne savent pas, je pense, enfin certains dirigeants.
Alors, quelle est la part d'inventeurs dans vos inventions? On a un peu répondu sur le pass sans contact. Et pour la borne ciel qui indique les temps de passage aux arrêts de bus?
Je sais pas ce que c'est qu'être un inventeur ou autre. Je vous dis, pour moi, c'est avoir des...
Des titres de brevets.
C'est avoir des idées ou repérer des idées. Alors, des brevets, effectivement, il y en a un certain nombre qui sont à mon nom, qui appartiennent à la RATP, malheureusement, d'un certain point de vue, mais j'en ai déposé récemment, cette fois-ci, à mon nom. Sur un autre sujet, je pourrais y revenir, qui ont trait au transport aussi.
À la RATP, juste pour faire une parenthèse, tous les brevets qui paraissent sont à la propriété de la RATP?
Absolument.
Il n'y a pas de nom de personnes qui
alors,
sortent.
D'une part, maintenant, je crois qu'il y a quelques noms, mais dans le cas alors du pass sans contact, c'était bien pire. Il y avait un accord avec Roland Moreno. Donc, si vous voulez, l'idée venait de nous, de la RATP. Je ne revendique pas l'idée de départ. Je revendique fondamentalement l'approche de vouloir faire un standard, l'approche technologique, le fait d'avoir arraché la décision ville après ville, parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement une centaine de grandes villes qui fonctionnent. L'État d'Israël, tout le pays d'Israël, qui est un petit pays, mais on sait qu'il recherche la meilleure technologie, je le cite parce que ça a été assez fabuleux de mon point de vue, ils ont carrément voté une loi. Et la seule technique autorisée en Israël est Calypso. Ah. Voilà. Alors, je suis ravi par ailleurs que le Maroc ait retenu la technique Calypso. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout dans toutes les querelles qu'il peut y avoir aujourd'hui. Nous sommes bien apolitiques, hein, et c'est ce qui est intéressant, c'est cela.
Du coup, on parlait des brevets. Bon. Vous dites, à l'époque, c'était plutôt au nom de la RATP.
Alors, je vais revenir un peu en arrière. Première étape, donc, c'était un télépéage piéton avec l'infrarouge. Heureusement, on a un coup de chance aussi, Blanc, qui était le patron de la RATP à l'époque, me demande de démarrer Météor. Donc, je pars. Les péages, c'est un successeur qui les prend, il trouve que c'est des conneries, il arrête tout. Magnifique. Dès que Météor a été mis en place, j'avais qu'une hâte, c'est de récupérer cette affaire-là. Ouais. Et je redémarre, le terrain était libre, et du coup, je dis, je veux pas recommencer les conneries que j'ai faites. Donc, pas de monopole, hein, et je veux quelque chose qui soit un standard. Donc, comme l'idée maintenant, c'est de dire, on va essayer de faire une transmission de proximité. Comme de toute façon, il faut quelque chose, donc un objet dans la main. Quel est l'objet qui s'impose? Bah, c'est la carte à puce. Qu'est-ce que c'est qu'une carte à puce? C'est le plus petit ordinateur qui existait à l'époque. Hein, d'accord? Et aujourd'hui encore. Enfin, ça a des petites puces, bon. Donc, je vais appuyer sur ceux qui maîtrisent bien ça. Donc, en l'occurrence, Roland Moreno, plutôt l'équipe qui est autour, hein, d'accord, l'équipe d'Innovatron. Et notamment, ils ont une deuxième caractéristique intéressante, c'est qu'ils avaient à l'époque, je crois, quelque chose comme 300 ou 400 licenciés. Donc, ils savaient licencier. Donc, voilà, c'est les deux raisons qui m'ont poussé à faire un accord avec Roland Moreno et ses équipes pour dire, voilà, donc, on va développer ça ensemble. Vous déposerez les brevets. Tous les brevets appartiendront à la RATP. Beaucoup ont été rédigés avec des noms de gens de Roland Moreno, hein, peu importe, mais tous les brevets sont propriétés de la RATP. Tous du pass sans contact, il y en a une bonne vingtaine, dont quatre essentiels, qui sont incontournables sur le sans contact en général, y compris sur les passeports, j'y reviens. D'accord? Voilà l'histoire donc des brevets là-dessus. Est-ce que ça vous répond à votre question?
Oui, et pour la borne ciel?
Alors pour la borne ciel, à ma connaissance, il n'y a même pas de brevet. Ouais. Vous voyez, donc, parce que très souvent aussi, les brevets, vous donnez l'éveil. Alors, ça, je l'ai appris à la longue, parce que sinon, c'est en tricotant qu'on devient tricoteuse, ou je sais pas comment on dit. Bon. Mais si vous voulez, souvent, il vaut mieux aller vite dans les nouvelles technologies que déposer des brevets. Vous donnez l'éveil.
Oui.
Bon, alors, je sais pas ce qui nous a animés. Sur ciel, ça nous semblait tellement évident. Même à la limite, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à protéger?
Alors revenons aux inventions. Lors d'une invention, comment sait-on qu'il faut persévérer et qu'on ne se trompe pas?
Alors moi là-dessus, j'ai la thèse moi, de ce que j'appelle le technicien éclairé. Alors technicien éclairé, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser la technique, il faut la comprendre. Mais éclairé, c'est-à-dire qu'il faut se dire quel est l'usage et surtout qu'est-ce que je peux imaginer derrière. Parce que l'usage, quand vous connaissez pas, si vous faites un test, les gens vous répondront à côté, ils peuvent pas imaginer, ils connaissent pas. Donc il faut se dire, moi je crois que j'ai eu la chance d'être passionné par le transport, je l'étais pas au départ, je suis passionné pour ce métier qui est extraordinaire, hein. c'est un concentré de la ville. Et quand vous pensez que 80% des gens dans les pays développés vivent dans des villes, et quel est le plus grand concentré de la ville, sinon les transports en commun. Bon, donc vous rencontrez toute la problématique de la ville, c'est fabuleux. Bon, donc quand vous êtes là-dedans, eh bien vous finissez par en connaître les besoins. Donc connaissant les besoins, vous voyez une technique qui passe, vous dites tiens mais ce truc-là, tiens ça me permet d'évoluer, tiens ce problème que j'arrivais pas à résoudre depuis des années, tac je savais maintenant je vais y arriver. Bon, et donc là tac vous repartez sur un nouveau truc. Bon, souvent même, vous voyez par exemple l'idée de donner l'information à l'arrêt des bus, elle y était. Donc l'idée, il y a rien d'original. Ce qui a permis le déclic et de le rendre possible, parce que c'était économiquement impossible, c'était de dire, on va mettre un pager, mais surtout, c'est qu'on localisait les autobus. Parce qu'avant, on les localisait de façon horrible. Il y avait des boucles dans la rue, donc il fallait tout casser la chaussée pour localiser les autobus. Voilà comment ça marchait.
Ah oui.
Sur la ligne 26-29.
Métro, RER, bus, tous ces points, toutes ces lignes, toutes ces femmes enchantresses à qui je voudrais faire signe. Métro, RER, bus, tous ces points, toutes ces lignes, un inconnu de plus dans la ville, je me résigne. Assis sur une banquette tape-cul, j'ai un peu mal, je croise le regard d'une coquette que
J'imagine vénal dans une rame de métro. Je tomberai amoureux à chaque seconde d'une go en ne connaissant que ses yeux.
Même à la pire des moches, je trouverai un charme. Depuis que je suis mioche, toutes les femmes me désarment. Dans mon village, moi ardu, je connais chacune d'elles. Néanmoins, je suis têtu, je les trouve toutes si belles.
Métro, RER, bus, tous ces points, toutes ces lignes,
toutes ces femmes enchanteresses à qui je voudrais faire signe.
Autoradio, ça fait du bien à tes oreilles.
Est-ce que vous n'avez jamais été démotivé par les étapes à franchir ?
Quand vous croyez à quelque chose, ça vous passionne, vous vous donnez à fond. Et alors, il y a des moments où vous êtes démotivé, bien sûr. Par exemple, j'ai reçu l'ordre, c'était en quelle année ? En 1994, d'arrêter le Pass Navigo. Cet ordre émanait du président de la RATP, Francis Lawrence. Il m'a donné l'ordre d'arrêter.
D'accord.
Bon, je n'ai pas arrêté.
D'accord.
Donc, si vous voulez, j'aurais été viré à l'époque, je l'aurais mérité. Une grosse déception qui a été suivie d'un truc que je cite, parce que si on dit souvent pique-pain des syndicats, et moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour les syndicalistes, certains d'entre eux en tout cas, qui aiment leur métier, et c'était un des syndicats considérés comme les pires, hein, souvent à la CGT, c'était un syndicaliste qui avait mis un tract contre effectivement cette technique qui en fait révolutionnait au plus haut point le métier des techniciens, hein, parce que c'est ça, la grande révolution, c'était ça. Il passait d'un système électromécanique à un système électronique, c'était une révolution de leur métier. Et donc il y avait des tracts qui circulaient. Donc je l'ai appelé en disant, écoutez, maintenant je suis coincé. En haut, on me donne l'ordre d'arrêter, vous balancez des tracts. Il m'a dit, laissez-moi réfléchir. Mais il me dit, je vais en parler à mon épouse. Il est revenu le lendemain, il me dit, alors qu'en est-il ? Il me dit, ma femme m'a dit, si on avait continué comme ça, les locomotives seraient toujours à vapeur. Je dis, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Il m'a dit, moi j'ai des chefs aussi, donc il y aura un tract que mes chefs verront, mais il n'y aura qu'eux qui le verront. Et nous avons pu continuer.
Étonnant, hein ?
Vous voyez qu'un moment de découragement total est suivi d'un truc, d'une histoire que je trouve merveilleuse.
Qui remotive.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez noté les pires découragements que vous avez entendus ?
Lorsque vous voulez innover, vous changez des choses. Donc vous faites des envieux, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Donc des moments de découragement, si, bien sûr que j'en ai eu. Mais si vous voulez également, j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs assez exceptionnels qui voulaient aller de l'avant. Et donc c'était une équipe, je crois, qui était très motivée. Enfin, je veux dire, dans les années 90, quand j'ai été nommé au département des systèmes d'information et télécommunications, c'était le seul département de la régie dont les objectifs, qui étaient terriblement ambitieux à l'époque, hein, il y avait notamment le pass sans contact mis comme généralisation, ce qui paraît dingue, hein, c'était loup-dingue, un télépéage dans les années 90, tout le monde rigolait. Deuxième chose, il y avait la radiolocalisation. Tout le monde rigolait. Il y avait également la création de filiales télécom. Tout le monde rigolait. Aujourd'hui, la plupart des Parisiens utilisent sans le savoir les fibres optiques de la RATP. Ce qui rapporte au passage un argent fou à la RATP dans un schéma qui a été mis aussi en place de façon originale.
J'ai le bit-tigri-ki-pop accroché à ma ceinture. Je le dégaine au coin de la rue, dans ma voiture. Impossible de fuir, plus de prétexte pour échapper aux durs aléas de la vie d'un financier. Être ici, en une seconde, être là-bas avec le boss, le patron et en direct avec toi. Je t'appellerai CNN en direct des balcons pour commenter la bombe qui
désolatement
pour s'écraser sur les fils électriques plongés. Millions de foyers dans le silence électronique.
L'économie plonge,
les finances paniquent.
Le téléphone est devenu bien plus que pratique.
Merci France Télécom, d'avoir pu perdre.
Donc tout cela, ça figure, c'est écrit dans les années 90, les gens nous prenaient pour des allumés. Et quand je pense à la radiolocalisation, nous avons radiolocalisé des autobus à la RATP bien avant que tous les projets Carmina ou autres voient le jour. Hein, donc dès l'année 90-91 à peu près, nous avions un autobus et une espace qui était radiolocalisé dans Paris et qui fonctionnait remarquablement. Pour localiser, nous avions besoin de cartes vectorisées, d'accord, qui maintenant sont monnaie courante. L'IGN à l'époque n'en avait pas. Les premières cartes vectorisées de la région parisienne ont été faites sur la région d'Evry, faites par 7 étudiants rémunérés par la RATP, et nous avons revendu ces cartes à l'IGN. D'accord. Je trouve que c'est une histoire fabuleuse.
Pour nos auditeurs, c'est quoi une carte vectorisée?
Bon, une carte vectorisée, c'est de quand vous voyez une carte, il y a des petits points, donc c'est une image.
Ouais.
Mais quand vous voulez vous mettre sur une rue, vous voyez que c'est bien plus commode de le représenter la rue par un vecteur. Donc quand vous dites je veux être une flèche, voilà. Donc ben vous dites je veux être avenue Jean Jaurès, et ben vous cliquez, vous allez droit sur cette flèche et vous savez où vous êtes. Donc c'est beaucoup plus rapide que de représenter toute la rue et ça vous permet de gagner beaucoup de temps sur les localisations.
Marre du boulot ? Mets-toi au repos avec Autoradio.
Il a la tête basse, assis seul sur son lit. Pense à la fille qu'il a vue vers midi. La télé fonctionne mais il ne l'écoute pas. Il veut la serrer dans ses bras. Elle est dans la cuisine et elle pense à celui qui tenait la porte pour qu'elle vienne à lui. Juste un regard, pas le moindre mot. Quand s'est fermée la porte du métro. Cette planète est grande mais la ville est petite. Elle est sa perle rare, lui il est sa pépite. Pour se revoir, ils font le même trajet, parce que leur rêve est de se retrouver. Elle le dessine à l'encre de Chine, quand lui cherche son sosie dans tous les magazines. Et il découpe les visages qui lui ressemblent. Il faut qu'on les rassemble, qu'enfin ils soient ensemble.
C'est un coup d'œil dans le métro, métro. Un scénario pour la métro, métro. Nos deux héros semblent rétro, rétro. Mais dans le monde réel, on n'en fait jamais trop. C'est un coup d'œil dans le métro, métro. Un scénario pour la métro, métro. Nos deux héros sembleraient trop, rétro.
À la RATP, est-ce que vous avertissiez votre chef de vos recherches?
Bon, mais je dépendais de Christian Blanc, donc je l'ai pas informé au départ, parce que justement c'est ce qui nous laissait, il libérait les énergies, comme selon son expression même, donc on travaillait, et puis à un moment il fallait bien y en parler, si vous voulez. Donc ce moment-là est arrivé bien sûr, je m'en souviens très très bien, il m'avait pris dans sa voiture, il m'avait dit « André, est-ce que vous mettez votre tête sur le bio ?» Parce qu'on peut y aller, j'ai la tête sur le bio, c'était un peu tôt, mais j'y crois. Il m'a dit « carte blanche, allez-y ».
Mais donc c'était assez libre.
Disons qu'on peut pas créer sans liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors
ouais.
Toutes les visions. Alors à l'RATP, de toute façon, la recherche n'est pas très organisée, hein, puisque l'activité première, c'est quand même de transporter les gens. Donc.
Alors reparlons du pass sans contact. Quels sont les intérêts pour la RATP et les usagers d'avoir ce pass?
Ben écoutez, d'abord la raison pour laquelle tout cela est né, c'est très simple. Il fallait renouveler les péages magnétiques. Les péages magnétiques, ils avaient une caractéristique, déjà pour l'usager, vous l'avez oublié peut-être, mais c'est toujours valable pour les carnets de tickets. Les sacs des femmes avaient des aimants. Si vous rapprochez un ticket d'un aimant, tac, il est démagnétisé. Il y avait 10% des tickets qui se démagnétisaient. Donc les cartes oranges, vous voyez ce que ça pouvait donner. Il y en avait 10%, colossal.
Ouais.
Premier point. Deuxième point, la maintenance des équipements de lecture est effrayante. Ce sont des pièces en mouvement qui s'usent. Ça coûtait 17% du coût d'investissement. C'est-à-dire qu'en 6 ans, vous aviez tout repayé à nouveau. Colossal.
Ouais.
Bon. Avec le pass sans contact, donc si vous voulez, l'intérêt est énorme pour les entreprises de transport. Vous divisez l'investissement par 2, aussi sec, clac. Et en termes de maintenance, vous divisez les coûts de maintenance par 4. Donc c'est colossal. À l'échelle de l'Île-de-France, je me souviens à peu près les ordres de grandeur, c'était de l'ordre de 600 millions de francs pour la RATP. Je parle en francs, excusez-moi. C'est à l'époque, nous disions 100 millions d'euros pour la RATP, le double pour l'ensemble de l'Île-de-France, donc 200 millions en renouvellement, en passe sans contact. C'était deux fois ce prix-là en magnétique. Et c'était la voie qu'avait prise la RATP et la SNCF en 90 quand j'ai pris mes fonctions, puisque tout avait été modifié et les agents étaient déjà équipés de cartes à haute coercitivité. Donc vous voyez en fait comment il a fallu rétro-pédaler pour installer cela, et je vous dis pas tout ce qu'il fallait faire sous la table et par ailleurs pour arriver à remonter la pente. Nous avons installé pratiquement clandestinement certaines lignes pour faire les tests, mais on a commencé quand même d'abord par les agents de la RATP. C'était d'abord un petit groupe de 30 personnes. Et un des plus anciens, un jour, a vu me dire, ah, c'est quand même pas mal ce truc-là. Je me suis dit, on a peut-être gagné. Bon. Puis après, on est passé aux 300 agents de maintenance. Et donc, c'est vraiment un produit issu des agents de la RATP, si vous voulez. Moi, je revendique effectivement, j'étais une espèce de chef d'orchestre là-dessus. J'ai eu la volonté d'avancer là-dedans, mais c'est un produit de ces 300 agents. Et je leur rends vraiment hommage. Il y a eu 200 modifications suggérées par tous ces gens. C'était leur produit. C'est devenu le produit des agents de la RATP. Pourtant, ça les impactait au plus haut point.
Et le produit de l'année. Grâce à mon inventivité.
Donc pendant de longues années, il y a eu des bornes visible mais qu'on ne voyait pas dans les tourniquets.
La toute première installation d'importance qu'il y a eu, c'est très amusant, ça a été la ligne 11. Il y a une histoire à la RATP, on teste tous la ligne 11, qui est la plus petite, l'une des plus petites lignes de Paris. Alors, il y a un petit bout qui est un peu plus petit. Enfin, bon, le métro sur pneu a été testé là-dessus. Bon. Et donc, il y a eu une opportunité. On devait fermer cette ligne avec des grilles électromagnétiques. Bon. Et puis là, on s'est dit, tiens, mais pourquoi on n'utiliserait pas, justement, le pass sans contact? Alors, le pass sans contact, il y a eu une autre opportunité. On équipait les agents d'une carte d'agent. Et sans rien dire à personne, ben c'était ni plus ni moins la structure du pass sans contact qui était mise là-dedans. Mais je vous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de carte qui fonctionnait à distance. Donc, on avait la structure qui allait bien. On mettait un petit boîtier par-dessus, d'accord, qui assurait la fonction de transmission. Et ce n'est qu'en 1998, finalement, qu'a été produite la première carte au monde, hein, à microprocesseur avec une transmission de proximité.
Ouais.
Il n'y en a pas eu avant, hein.
Alors, est-ce que aussi ça permet d'éviter la contrefaçon?
Ah, bien sûr, non, parce que s'il est en gros, et là on tire parti bien sûr de l'invention de la carte à puce, on ne réinvente pas la machine à couper le beurre. Mmh. Donc on s'appuie sur les mécanismes qui ont été mis au point, testés sur la carte à puce.
On se rappelle de Roland Moreno qui monte sa carte à puce et
absolument.
Dit infalsifiable.
Oui, alors le infalsifiable, si vous voulez, tout combat de sécurité est relatif, hein, ça me fait penser aux coffres-forts de nos grands-mères qui étaient infalsifiables, enfin ouais, inouvrables, oui, à l'époque, et qui aujourd'hui sont ouvrables avec un fil de fer. Bon, donc tout le combat de la sécurité est un combat continu en évolution permanente. Il est certain que nous nous sommes appuyés volontairement sur les mécanismes de sécurité de la carte à puce, hein, et que les techniciens de Roland Moreno, de Innovatron, ont largement contribué à l'émergence de Calypso. De même que la transmission, comme je vous l'ai dit, venait en partie du SEPT. Donc tout cela, c'est quoi? C'est un assemblage que personne ne soupçonne, c'est tellement petit. Il y a des briques diverses qui viennent des quatre coins de France. Et ensuite, il y a eu la volonté très forte d'en faire un standard européen. Donc, je me souviens très bien que la première carte qui a fonctionné, y compris sur Paris, n'a pas été fabriquée. Pourtant, les Français étaient les meilleurs encarteurs qui est au monde. Ben, c'était une boîte allemande qui l'a fabriquée parce qu'il y avait la volonté d'en faire un standard européen.
Autoradio, O-T-O-R-A-D-I-O, Fastoche.
De tous les salons, les foires et les grandes expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalées. Harrods et Walmart ont fait de moi un produit vraiment très smart, vraiment très smart.
Alors pour les usagers, J'ai vu deux points d'avantage. Le gain de temps au passage, hein, c'est quand même bien plus rapide que de sortir son ticket. Et puis, son abonnement est assuré même en cas de perte.
Oui, mais ça, on aurait pu le faire également avec du magnétique, hein, à la limite. Donc, l'utilisateur, je dirais qu'effectivement, le gain est peut-être moins évident au départ. Ceci étant, si on le conçoit, comme on l'avait conçu assez rapidement, comme étant un pass urbain, faisant la synthèse, l'idée, je me souviens, c'était de vous faire les poches. Donc, qu'est-ce que vous avez dans les poches? Vous avez des tickets de métro, bien entendu, quand vous êtes parisien. Vous avez des clés. Hein. Vous avez quoi? Vous avez de l'argent. Et donc, on avait ces trois volets, plus une carte d'identité.
Ouais.
Voilà exactement ce qu'il y avait, dès le départ, sur ce qu'on appelait le pass urbain. Alors là, on va déboucher sur toute l'aventure du porte-monnaie électronique français, qui a tourné court, mais c'est dommage. Mais je rappelle qu'en 1996, hein, il y avait un porte-monnaie électronique qui marchait en sans contact sur Noisy, où j'avais les bureaux donc de mon département à Cité. Les 40 000 agents de la RATP pouvaient venir consommer, payer leur café, payer leur baguette, etc., en sans contact. Donc quand on vous parle aujourd'hui de toutes les innovations qu'il y a pu avoir en sans contact, bon, ça me fait un peu sourire, un peu un rictus, si vous voulez, parce que également, quand on vous parle des téléphones qui intègrent le sans contact, je vous rappelle qu'à l'époque, j'ai toutes les vidéos ad hoc, nous avions trois prototypes, un fourni par Sagem, qui était le français, un par Nokia et un par Motorola, qui permettait de recharger le pass sans contact en utilisant son téléphone portable. 1996, j'ai bien dit. Hein.
Alors, quel est le pourcentage des tickets qui restent encore à usage unique là, par rapport aux abonnés de la carte à puce sans
contact?
Alors,
il y a deux. S'il en gros 80% des utilisateurs, j'arrondis, hein, oui, sur Paris, utilisent maintenant du sans contact, mais il en reste 20%, en gros 10 et 10, qui se répartissent donc sur les carnets de tickets 10 billets et les billets à l'unité. Bon, pour moi, c'est une aberration, notamment sur le carnet de 10 tickets. Hein, je vois pas très bien pourquoi ça continue comme ça, à telle enseigne que les touristes qui viennent ou les responsables de transport internationaux me disent « Mais comment ça se fait à Paris? Vous êtes encore là ?» Bon, alors là-dessus, quand vous regardez sur le sans contact, vous avez toujours deux problèmes à traiter. Un qui est comment vous distribuez ce titre. Parce que toute l'histoire des péages est une optimisation continue. comme dans toute technique en fait, hein, on part, on a supprimé le poinçonneur des lilas. C'était le contrôle visuel qui est devenu automatique avec le lecteur, d'accord ? Fini le poinçonneur des lilas.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait ? Je l'ai dit, on optimise la maintenance. 17% de coût de maintenance, c'est effrayant, alors qu'un lecteur, lui, ça coûte plus rien en maintenance. Le troisième stade, c'est justement ce qu'il faut optimiser, c'est d'une part le coût du support pour traiter l'occasionnel, parce que c'est un outil un peu performant et donc ça coûte un peu cher par rapport à un support magnétique qui coûte pas grand-chose. Et deuxièmement, c'est comment on distribue. Pour résoudre le cas de l'occasionnel, malheureusement à Paris, je n'ai jamais réussi à le faire, mais j'avais réussi à le promouvoir à Capri. Ça a été la première implantation, donc c'était sympa, on allait souvent à Capri. J'ai réussi à le faire à Mexico, où je travaille actuellement, où c'est tout bête. Ben, quand vous buvez une bouteille de bière, vous payez la consigne de la bouteille et vous consommez le contenant. Et ben, c'était la même chose. Une façon d'éliminer le coût du support, c'est de le consigner. Ça n'a jamais marché sur Paris. Donc là, vous éliminez le fait qu'on vous dise, mais le support coûte très cher puisque vous le remboursez. Alors, sur la distribution, hein, je rappelle que, effectivement, il y avait trois canaux principaux de distribution, hein, qui étaient les agents en station, qui continuent très peu aujourd'hui, c'est devenu automatique. Il y avait les machines automatiques et puis il y avait les distributeurs. D'accord, qui était le moins cher du Détroit. Bon, et c'est à l'époque où on avait introduit notamment les automates bancaires, hein, notamment les 52 automates du CIC qui ont commencé à fonctionner. Aujourd'hui, on n'a pas évoqué en début d'entretien le rechargement par Internet qui avait été conçu dès le départ. L'idée, c'est qu'on voulait un très haut degré de sécurité parce qu'on l'oublie. À l'époque, dans les années 90, il y avait encore la première. Il y avait encore 8 zones sur Paris et qu'un billet de première 8 zones coûtait pratiquement 15 000 francs.
À l'année.
En gros, converti en euros, ça ferait...
Ça fait à peu près 2000 euros pour une carte orange, donc de zone 1 à 8 en première classe et à l'année, hein, bien sûr.
Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous.
Et d'ailleurs, le coût d'un ticket, ça coûte combien un ticket à fabriquer pour la
RATP ? Une carte à puce, donc vous voulez dire, sans contact ?
Non, pas sans contact, un ticket magnétique.
Alors un ticket magnétique, ça coûte trois fois rien, hein, c'est de l'ordre. Alors tout dépend s'il y a des procédés anti-contrefaçon ou pas dessus, ce qui élève le coût. C'est de l'ordre de quelques centimes d'euros. Hein.
Ouais, centimes d'euros.
Ça coûte trois fois rien.
Mais du coup, est-ce qu'on fait vraiment une économie en passant au sans contact si
alors,
on ne,
voyez, c'est
si
la
on
même
ne
chose.
Fabrique plus
C'est toujours la même chose, c'est qu'il faut raisonner globalement, il faut raisonner en système. Hein, vous pouvez avoir un billet un peu plus cher si le lecteur vous coûte trois fois rien. Donc on avait calculé effectivement qu'à 20 cents, hein, y avait un équilibre et qu'on pouvait supprimer le tout pour se défaire de la maintenance qui était fort chère des lecteurs.
Ouais.
D'accord ? Et ce seuil est pratiquement là aujourd'hui. Comme sur le téléphone, quand on vous a vendu la carte téléphonique, on vous a plus vendu le jeton téléphonique, on en a vendu 10, on a vendu des unités, pour justement faire disparaître le coût du support.
Ouais.
Donc il faut toujours penser également en termes de marketing pour se dire ben, comment je peux inciter les gens à prendre cela aussi. Il ne faut jamais raisonner toutes choses égales par ailleurs.
Momentanément indisponible. Nous informons notre clientèle que les demandeurs de la carte Imagination doivent se rendre à l'entrée. C'est pour le distributeur momentanément indisponible. Votre quota est atteint. Renouvelez votre carte intérieurement. Rendez-vous dans votre distributeur. Soyez patient. Les demandeurs d'une carte Imagination doivent se rendre à l'accueil. Insérez votre carte. Posez votre code à la base.
Alors, est-ce que cette carte peut être utilisée à mauvais escient ? Je parle de flicage ou de connaître un peu des habitudes des voyageurs qui pourraient servir à des choses plutôt malhonnêtes.
Alors, là, c'est quelque chose qui me fait toujours sourire, parce qu'il ne faut jamais confondre l'outil et l'usage qu'on en fait. Hein. Donc, si vous prenez une voiture, vous pouvez vous envoyer sur le mur, et pourtant, ça peut être aussi un outil de plaisir.
Ouais.
Donc, bah, l'usage qu'on en fait, on peut effectivement dire on va fliquer les gens. Il n'y a pas de doute. Bon, ceci étant, ce qu'il faut bien voir, et je rappelle que dans les années, c'était 2002, je crois, ou 2003, nous avons eu un prix de la CNIL. Donc, ce qui montre bien, puisque c'est des gens sérieux, qu'il y avait quelque chose de mieux. Et je rappelle que sur le ticket magnétique...
Qui contrôle la propriété...
qui contrôle le respect des libertés individuelles.
Voilà.
Hein, d'accord ? Commission nationale des libertés individuelles. Voilà. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est sur un pass sans contact, L'image, c'est qu'on a déporté toute l'intelligence sur ce petit support de carton. Donc, ayant tout là-dessus, si vous voulez, on n'est pas contraint de repasser par le central. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous avez un ticket magnétique, c'est pourquoi ça me fait un peu doucement rigoler, quand vous passiez en 200 millisecondes, on envoyait le numéro de votre ticket magnétique au central et ça revenait. Moi, je savais en pressant sur un bouton que la carte numéro 402, qui correspondait à un tel, était passée devant tel péage en magnétique.
Oui. D'accord.
D'accord. Donc, il n'y a rien de pire. Tout dépend de l'usage que vous en faites. Mmh. Or, si vous avez des informations sur votre carte, vous pouvez très bien vous passer du ce qui est dangereux. C'est la centralisation des informations. Mmh. Donc, vous pouvez vous en passer. Donc, si cet outil étant beaucoup plus performant, peut-être une garantie supérieure pour la liberté individuelle. Bien entendu, il y a toujours des déviances possibles. Mais ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on vérifie bien qu'on ne remonte aucune, c'est vérifié par la CNIL, aucune donnée personnelle au central.
Ouais.
Ce qui n'était pas le cas sur le ticket magnétique.
D'accord. Et quel espace de stockage y a-t-il sur cette carte?
Alors, effectivement, il est pléthorique, hein, puisqu'il faut savoir que, toujours par comparaison au ticket magnétique, il y a 62 bits, hein, vous voyez, d'informations binaires, hein, des 0 et 1, c'est tout. Et avec ça, on a fait tout Paris, la carte orange a été faite. Ben, sur une carte à puce, la Navigo classique, il y a 2K. Alors, 2K, ça veut dire quoi? C'est 2 kilooctets, okay. Donc 2000 multiplié, ça fait 16 000 informations binaires. Vous voyez que c'est pléthorique, on n'a pas besoin d'autant. D'ailleurs, à Mexico, où je travaille actuellement, on traite la ville de Mexico qui est énorme, avec un ticket sans contact, donc qui a été testé pour la première fois sur Paris, sur la liaison Orly-Paris, dans les années 96 également. C'est là où on a mis au point le plus petit ticket qui soit au monde également en sans contact, et il est repris par Mexico, et il ne fait que 256 bits. Ce qui est amplement suffisant. Donc nous avons effectivement pléthore d'informations, ce qui permet de faire bien d'autres choses. Mais justement, j'attends toujours ces usages. C'est-à-dire qu'il y a un outil magnifique et les gens, par exemple, si vous voulez, il permet des tarifications extraordinaires qui n'ont jamais été imaginées parce que les gens mélangent tout. Hein, et que quand vous avez un outil, il faut voir l'usage qu'on en fait. Donc on peut faire des tarifications à l'heure, on peut vous faire des tarifications dégressives si vous prenez 10 fois le même trajet. Il faudrait mettre de l'imagination là-dedans, il n'y en a pas. Les gens s'y intéressent pas, c'est triste.
Ouais.
Ça, c'est le travail du STIF, avant tout.
Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, par exemple, un cas concret, c'est que si on a un abonnement et qu'on veut aller dans une zone différente, on est obligé d'acheter un ticket complet.
Ce qui est stupide.
Pas prolonger.
Ce qui est stupide.
Ouais.
Alors que le complément est parfaitement faisable.
Vous êtes bien sur Autoradio.
Cela s'appelle le complément de transport et il est désormais possible depuis le 1er janvier 2013 de voyager en ne payant que le supplément.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet.
Voilà, c'est terminé pour la première interview d'André Ampelas. Mais on le retrouvera pour plein d'anecdotes sur le Pass Navigo, sur la borne ciel, sur ses nombreuses autres innovations et sur ses projets également en cours, principalement à l'étranger, dont une innovation dont il est l'inventeur, le taxi sûr. Chut, j'ai rien dit. Hein. On en saura plus la prochaine fois. Mais l'émission n'est pas encore terminée puisqu'il faut maintenant jouer. Chers radionautes, vous avez bien écouté l'interview d'André Ampelas. Voici deux questions qui vont vous permettre de gagner le prix de votre abonnement mensuel de la carte Navigo. Zone 1-2, c'est 65 euros. Vous pouvez les gagner en répondant correctement à ces deux questions. D'abord, il faut me dire le prix donné par André Ampelas pour une carte orange à l'époque en 1990, dans les années 90, de 8 zones. Zone 1 à 8, en première classe. Quelle est la somme donnée? Je vous aide, c'était en francs. Pas besoin de convertir, c'était en francs. Donnez-moi cette somme. Deuxième question. Quel est le pourcentage de tickets magnétiques démagnétisés? Sur 100 tickets, combien sont démagnétisés lors de leur utilisation? Il est quasiment 20h sur Autoradio ce jeudi. Et les trois premiers qui vont donner les réponses justes, Autoradio leur offre leur abonnement mensuel du mois prochain. Pour cela, vous écrivez votre commentaire sur le billet, l'article de l'émission sur autoradio.com. Renseignez correctement votre adresse email, c'est le seul moyen que nous aurons de vous recontacter. Et le tour est joué. Attention, les lots sont remis en jeu s'il n'y a pas de gagnant ou s'il n'y a pas suffisamment de gagnants. Donc vous avez peut-être encore un avantage en réécoutant l'émission demain de trouver les bonnes réponses. Un petit rappel des questions. La première, quel est le prix de l'abonnement annuel en première classe de la zone 1 à 8 en 1990? Il faut donner la somme en francs. Et quel est le pourcentage de tickets magnétiques démagnétisés lors de leur utilisation? C'était Eureka du Déclic à l'invention. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite des aventures d'André Empelas.
C'était Eureka du Déclic à l'invention. À bientôt pour de futures aventures.
Il produit de la nuit. Grâce à mon inventivité.
Auto. Radio. Auto. Radio.